Vous écoutez, on lit pour vous.
L'auto-autochtonisation. Quand l'ascendance autochtone est détournée. Un texte de Marie-Lou Bernatché, paru le 4 mai 2023 dans l'Express.ca de Toronto. Il y a de plus en plus de personnes blanches qui s'identifient comme autochtones sans avoir de reconnaissance officielle, avance le professeur de sociologie Daryl Leroux de l'Université d'Ottawa. Ce mouvement serait davantage populaire au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur la côte est des États-Unis. L'Ouest canadien n'est pas épargné, dit-il, mais c'est plus rare, entre autres dû à la forte présence des Premières Nations. Daryl Leroux travaille sur les dynamiques du racisme et du colonialisme depuis près de 20 ans. Le 4 avril 2023, à la rotonde de la Cité universitaire francophone, un campus de l'Université de Regina, il a lancé son livre « Ascendance détournée quand les Blancs revendiquent une identité autochtone ». Abordant les enjeux de l'appropriation de l'identité métisse et autochtone, l'universitaire a ainsi décrypté le concept d'auto-autochtonisation, une ascendance détournée. Selon le chercheur, plus de 10 millions de personnes au Canada ont un ancêtre lointain autochtone. On parle de lignées très lointaines, d'environ 10 générations. Daryl Leroux a retenu trois mécanismes distincts que les personnes blanches utilisent pour retrouver des ancêtres qui seraient autochtones. Le premier mécanisme, le plus utilisé, est celui d'ascendance linéaire, c'est-à-dire lorsque tu cherches les parents de tes parents et de tes grands-parents, etc., dans une lignée généalogique. L'ascendance ambitieuse est la deuxième technique utilisée. Encore une fois, tu remontes dans le passé, mais ce qui est différent et intéressant, c'est que l'ancêtre revendiqué est un ancêtre européen dont l'identité est transformée pour être autochtone. Le dernier mécanisme est celui de l'ascendance latérale. On commence en linéaire, puis on bifurque vers la droite ou la gauche pour, par exemple, affirmer que le petit cousin était marié à la tante de Louis Riel. C'est une technique assez créative. Et si vous pensez que j'exagère, j'ai vu des exemples de revendications assez créatifs. Des données qui ne collent pas. Le professeur explore plusieurs forums de généalogie pour identifier les mécanismes individuels de l'auto-autochtonisation. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ce sont presque toujours les mêmes femmes qui sont revendiquées, et pour plusieurs identités. Une même personne peut être utilisée pour revendiquer une identité métisse, algonquine, inou, etc. Les quatre femmes qui ressortent le plus dans les forums de généalogie portent les noms de Marie Sylvestre, Marie Métouamé-Gokoué, Marguerite Pigarouich ou Femme Nipissing, toutes nées entre 1600 et 1650. J'ai estimé que Marie Sylvestre aurait environ 2 millions de descendants et que ces quatre femmes ensemble en auraient environ 3 à 4 millions. Ce qui veut dire que des millions de personnes pourraient se revendiquer autochtones aujourd'hui au Canada si on suit cette logique avec ces quatre femmes seulement. Ponctue le chercheur. Pourquoi s'auto-autochtoniser? C'est étrange, car on ne voit pas de gens qui revendiquent avoir des racines anglaises, donc ça nous parle de la tendance politique du moment. Exprime Daryl Leroux. Toujours selon l'auteur du livre « Ascendance détournée » qui deviendra professeur agrégé à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa au mois de mai, il y aurait un mouvement de chasseurs et de pêcheurs qui s'auto-autochtonisent. Il semble y avoir des stratégies politiques pour s'opposer à des recours territoriaux des Premières Nations. Entrevoit-il, au vu de ces analyses de procédures judiciaires entamées par des associations dites métisses qui visent des droits de chasse et pêche sur divers territoires. Et cela, même au détriment des autres groupes autochtones déjà présents, ajoute-t-il. Le chercheur rappelle que, peu importe la motivation, lorsqu'une personne change son identité, c'est qu'elle est à la recherche d'un avantage quelconque, monétaire, social ou culturel. Il y a aussi un petit pourcentage de ces gens qui croient honorer ses ancêtres et qui pensent qu'il est en train de faire une bonne chose, regrette le conférencier. Malgré tout, ce mouvement qui prend de l'ampleur ne connaîtrait pas souvent de dénouement positif auprès des instances gouvernementales. Ce n'est pas un mouvement qui fonctionne bien, se félicite Daryl Leroux. Pour le moment, les procédures judiciaires des organismes et individus qui revendiquent une soudaine identité métisse ou autochtone ont toutes échoué. C'était l'auto-autochtonisation quand l'ascendance autochtone est détournée, un texte de Marie-Lou Bernatché paru le 4 mai 2023 dans l'Express.ca de Toronto.
Internet est une énorme fraude. Un texte d'Alain McKenna paru le 6 mai 2024 dans Le Devoir. On ne peut plus se fier à ses courriels. On ne peut plus prendre les médias sociaux à la légère. On ne peut plus acheter sans craindre d'y perdre son portefeuille. On ne peut même plus vendre sa vieille auto usagée sans risquer de se faire rouler. C'est officiel, Internet est une énorme fraude. C'est le printemps. C'est, pour bien des gens, le temps du grand ménage et la préparation d'une éventuelle vente de garage. Parce que nous sommes en 2024, cela se fait en bonne partie en ligne, sur Kijiji ou sur le marketplace de Facebook. On peut tout vendre sur ces plateformes, y compris sa voiture. Sauf que les arnaqueurs sont à l'affût. Même votre vieille minoune les intéresse. Comment? C'est simple. Ils veulent l'acheter. Rapidement, en argent comptant, au prix que vous demandez, à une condition, pouvez-vous nous transmettre un rapport d'évaluation complet, préférablement obtenu du site qu'on vous recommande? Ces sites ont des noms rassurants comme Véhicule Audit ou Véhicule History. Ils proposent de faire la même chose que les sites officiels de Carfax Canada et plus encore. C'est pour ça que l'acheteur insiste. Il ne veut pas d'un rapport de Carfax, il veut l'autre. De toute façon, il coûte la même chose, une cinquantaine de dollars. Alors, vous payez le site, vous recontactez l'acheteur potentiel pour lui transmettre le rapport et, pouf, il a disparu. Ce ne sont que 50 dollars pour vous, mais pour ces magouilleurs, sur le lot de véhicules d'occasion mis en vente sur Internet par des particuliers partout en Amérique du Nord, c'est un joli magot qui s'accumule dans leur poche. On veut votre bien et on l'aura. C'est le genre de fraude qui s'ajoute à toutes les autres. Hameçonnage par courriel, vol d'identité sur des sites en apparence bancaire, appel téléphonique frauduleux. Ou pensez-vous que les fraudeurs récoltent les numéros de téléphone et toute l'information à propos de leurs victimes? Sur Internet. Il y a toujours eu des tentatives de fraude sur Internet. On a identifié le premier courriel frauduleux aux États-Unis en 1978. À l'époque, Internet s'appelait ARPANET et n'était fréquenté que par des militaires et des universitaires. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission, qui surveille le commerce électronique afin d'y détecter la fraude, a repéré cette pratique des messages frauduleux dans l'achat d'automobiles il y a 5 ans déjà. Elle a beaucoup fait parler au Canada l'année dernière. Elle est courante au Québec ces jours-ci. En 2024, on dénombre 3,8 milliards de courriels frauduleux tous les jours. La bonne nouvelle, si tant est que ça en soit une, les courriels frauduleux ou trompeurs représentent à l'heure actuelle seulement 45% de tous les courriels échangés. En 2011, leur proportion était de 80%. Léger détail, on s'échangeait environ moitié moins de courriels au début de la dernière décennie qu'on le fait en ce moment. La proportion a donc baissé, Mais dans l'absolu, il y a plus de messages frauduleux que jamais sur Internet ces jours-ci. C'est encore pire si on ajoute les messageries directes et les applications de clavardage. Toutes ces tentatives de fraude ont un seul et même but, avoir votre bien. Comme l'ont si bien dit les cyniques, à la blague, à une autre époque, bientôt, ils vont l'avoir. Tout cela n'a que pour objectif de voler de l'argent à des internautes un peu distraits. On craint le pire avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative. C'est tout à fait légitime. Mais Internet était déjà pas mal pollué bien avant ChatGPT. On veut votre cœur, on l'aura lui aussi. Un impact insoupçonné de l'IA générative sur notre relation avec le monde est qu'elle nous permettra à notre tour de jouir aux fraudeurs. On recense déjà des cas de plaidoirie en cours où un avocat a présenté une jurisprudence créée de toutes pièces par une IA générative. En fait, vous avez probablement déjà dans vos poches un téléphone capable de prendre des photos, puis d'en effacer les bouts qui ne font pas votre affaire. L'effaceur magique proposé par Google et d'autres fabricants est une application d'IA qui ne cesse de s'améliorer. À la fin avril 2024, le site de rencontre OkCupid est allé plus loin en proposant un nouvel outil à ses utilisatrices et utilisateurs. Erase Your Ex. Cet outil est le fruit d'un investissement de 43 millions de dollars américains par la société mère d'OkCupid, l'entreprise américaine EAC. Comme son nom l'indique, Erase Your Ex permet de faire disparaître votre ancienne flamme de vos photos de profil pour mieux séduire votre prochain coup de foudre. Pratique si la photo avec l'ex est la seule que vous ayez de vous qui a de l'allure. Notez que OkCupid cible particulièrement les femmes avec cet outil. Un sondage auprès de 185 000 des utilisatrices d'applications de rencontres a révélé que les deux tiers d'entre elles rêvaient de pouvoir effacer leur ex de leurs bonnes photos. Les fraudeurs et leurs messages truqués s'en prennent à votre portefeuille. L'IA et ses images truquées s'en prennent à votre cœur. La magie d'Internet, c'est ça, une énorme fraude. C'était « Internet est une énorme fraude », un texte d'Alain McKenna paru le 6 mai 2024 dans Le Devoir.
Observer, santé, goûter. La recette pour réduire le gaspillage alimentaire. Un texte de Sylvain Charlebois paru le 20 juin 2024 dans La Presse. Reconsidérer les dates de péremption peut entraîner une réduction substantielle du gaspillage alimentaire et des économies pour les ménages canadiens. La campagne « Observer, santé, goûter » permet aux consommateurs de faire des choix plus intelligents et plus judicieux pour le portefeuille. Nous savons tous que le gaspillage alimentaire représente un problème environnemental, mais aussi un fardeau financier considérable. Selon Second Harvest, près de 60 % des aliments produits pour les Canadiens, environ 35,5 millions de tonnes, se perdent et se gaspillent chaque année. De ce nombre, 32 % ou 11,2 millions de tonnes sont encore comestibles et pourraient être redistribuées pour soutenir les gens dans nos communautés. La valeur financière totale de ces aliments, potentiellement récupérables, atteint 49,46 milliards de dollars et nous payons tous pour ce gaspillage. En tant que consommateurs, nous gaspillons des aliments pour diverses raisons, notamment une mauvaise planification et une gestion d'inventaire faible à la maison. Cependant, l'un des principaux problèmes obligeant de nombreuses familles à gaspiller des aliments inutilement réside dans les dates de péremption. Ces dates constituent la deuxième raison pour laquelle les consommateurs jettent des aliments à la poubelle. On estime qu'un ménage canadien pourrait éviter de gaspiller entre 100 et 400 $ de nourriture chaque année en raison de la croyance écrasante que « meilleur avant » signifie « mauvais après ». L'initiative « Observer, santé, goûter » lancée à la mi-juin 2024 par l'application de sauvetage alimentaire « Too Good To Go » vise à résoudre ce problème. À partir de maintenant, certains articles sélectionnés à travers le pays présenteront une étiquette invitant les consommateurs à observer, sentir ou goûter un produit si sa date de péremption est dépassée avant de le jeter. Bien que la règle « en cas de doute, jetez-le » reste une référence, cette nouvelle campagne pourrait aider à sauver de nombreux emballages alimentaires non ouverts qui finiraient autrement dans le compost, coûtant de l'argent. Cette initiative représente une bonne nouvelle pour les Canadiens. Il s'agit de sensibilisation et d'éducation, mais surtout de confiance dans les pratiques de sécurité alimentaire au Canada. Selon l'Indice mondial de la sécurité alimentaire, le Canada se classe premier au monde pour la qualité et la sécurité, suivi du Danemark et des États-Unis. Malgré des rappels occasionnels et des revers, la nourriture au Canada reste parmi les plus sûres au monde. Un autre facteur important se loge dans l'emballage. Au fil des ans, des recherches ont permis d'améliorer grandement la sécurité alimentaire en réalisant d'énormes progrès avec la technologie d'emballage. Par exemple, les nouveaux emballages antimicrobiens et sous atmosphère modifiée procurent une sécurité alimentaire accrue en offrant une meilleure protection et une meilleure surveillance des produits alimentaires. Les technologies d'emballage intelligentes, comme les indicateurs temps-température et les capteurs de fraîcheur, permettent une surveillance en temps réel de la condition des aliments, garantissant que les consommateurs reçoivent des produits sûrs et de haute qualité. Ces avancées réduisent le risque de contamination, de détérioration et de maladies d'origine alimentaire, améliorant ainsi la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La plupart des consommateurs ne peuvent pas apprécier tout le travail effectué en coulisses tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Mais ce travail garantit que les aliments sont aussi sûrs que possible au détail. Cependant, le gestionnaire de risque le plus important de toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire reste le consommateur lui-même. C'est à lui de décider comment atténuer les risques et ce qu'il considère comme un seuil de risque acceptable. Notre société a fait de la perception du risque une question très personnelle et la sécurité alimentaire n'y fait pas exception. Selon une enquête du laboratoire de l'Université Dalhousie l'année dernière, environ 27 % des Canadiens éliminerait complètement les dates de péremption pour réduire le gaspillage alimentaire. Cette petite partie de notre population indique que la culture de la sécurité alimentaire au Canada et la dépendance aux indicateurs clés, comme les dates sur les emballages, restent très fortes. De plus, certains consommateurs recherchent ces dates pour obtenir des offres sur les aliments dont la date de péremption approche dans les épiceries ou à l'aide d'applications. Il est difficile de s'opposer à cette pratique. En attendant, nous avons besoin d'une éducation et d'une sensibilisation en continu. La campagne « Too Good To Go »,« Observer, santé, goûter » offre une approche équilibrée pour aborder notre problème de gaspillage alimentaire au Canada, du moins pour l'instant. C'était « Observer, santé, goûter », La recette pour réduire le gaspillage alimentaire. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 20 juin 2024 dans La Presse.
Une histoire sans fin. Un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir. Dans le bureau où j'entame ma troisième et dernière chronique consacrée aux bibliothèques, mes livres ont repris la place qui leur revient et quitté la noirceur du sous-sol. Oui, j'ai enfin rempli les rayons de ma nouvelle bibliothèque. C'est un rêve de papier, un édifice de mots, la maison des histoires. Ce qui m'apaise le plus dans tout ça, c'est que soit enfin dissipé l'écho qui régnait dans la pièce, constant rappel du vide ambiant. Dans mes précédentes chroniques, j'ai commencé à raconter l'histoire d'une femme qui s'offre la bibliothèque de ses rêves. Une fois venu le moment de remettre les livres sur les rayons, elle fige, fait de l'évitement, se sauve. Elle entreprend de visiter d'autres bibliothèques et si vôtre, puisque, comme plusieurs d'entre vous, elle veut vivre parmi les livres, comme d'autres parmi les oiseaux, les orchidées ou les singes. Après avoir visité, dans un état de ravissement total, celle de l'Académie française, je me suis rendu, il y a un mois, à l'occasion de la remise des prix littéraires du gouverneur général, à Bibliothèque et Archives Canada, BAC, à Gatineau. C'est un lieu où on entrepose les traces de l'histoire canadienne et qui agit comme mémoire permanente des institutions fédérales. Au-delà des allégeances politiques, c'est un endroit ouvert au public que l'on peut visiter pour voir comment on conserve et protège la mémoire écrite d'un pays, mais aussi les tableaux, archives, objets vétustes, bobines et autres témoins muets de l'histoire ou, préciserai-je, d'une certaine lecture de l'histoire. Lors de la visite, les questions perçantes et vives de Maya Cousineau-Molène, lauréate du GG catégorie Poésie en 2022 pour Enfants du Lichen, sur la préservation de l'héritage historique des peuples des Premières Nations, ont révélé que ce legs n'avait pas bénéficié du même traitement de préservation et d'archivage. Sur place, on a pu consulter les manuscrits de Régent Ducharme, de Jacques Poulain et de Normand Chaurette, annotés au stylo par les auteurs eux-mêmes. Écrire à la dactylo devait parfois être si exaspérant. Nous avons rencontré une restauratrice de livres anciens. Avec une minutie astronomique, cette femme redonne vie à de vieux bouquins moribonds. Dans les yeux des archivistes brille cette petite étincelle qui vibre dans le regard de ceux qui savent où sont cachés les trésors et les protègent d'une manière quasi chevaleresque. Le bâtiment voisin est un immense cube blanc dans lequel un robot archiviste coule des jours occupés. Il s'agit du Centre de préservation des archives, ouvert en 2022 et dont l'architecture n'a pas enchanté les Gatinois, paraît-il. L'édifice est éco-énergétique et durable. Un livre entreposé en 2022 serait encore lisible en 2522. Avec ses chambres fortes où sont contrôlées lumière, température, humidité et particules dans l'air, l'édifice apparaît humble, modeste et brut. Il faut l'observer plus attentivement pour apprécier son aspect esthétique. Ses murs extérieurs reproduisent les couches intraterrestres du sol sur lequel il a été érigé. Un peu à la manière d'une carotte de forage, des strates géologiques se déclinent selon un effet miroir qui va de sa couche la plus superficielle en creusant vers le centre de la Terre. Je trouve révélateur que, renonçant à la grandiloquence du marbre, du velours, des statues et des épées de l'Académie française, on est plutôt ici décidé de représenter l'intérieur de la Terre et ses sédiments rocheux. C'est une toute autre histoire que l'on raconte, par strates. Après être allé me perdre et m'inspirer dans les couloirs labyrinthiques de bibliothèques somptueuses et de hauts lieux d'archivage, j'étais de retour à la case départ, debout devant la mienne, vide, à part le rayon des Hanébert. Commence par placer un livre, juste un, a proposé Charlotte, 16 ans. Ça ne m'était pas passé par la tête de lui demander conseil pour ranger mes livres. La chambre de ma fille, une sorte de petit musée voué au culte de la chanteuse Lana Del Rey, est dans un état de désordre post-sinistre depuis plusieurs années. S'y aventurer est risqué puisqu'on ne voit plus le plancher. De petits objets bruissent et se craquellent sous le talon. Du papier bulle éclate. J'estime que 20% de la vaisselle de la maison s'y trouve. Ici aussi, dans les strates des croûtes cristallisées de smoothie, chocolat chaud et autres cernes de potage de brocoli, une histoire nous est racontée. J'ai commencé par glisser, doucement, un roman de Marie-Claire Blais. Ensuite, tout le reste a déboulé. Ce fut un samedi parfait, à constituer de petites constellations de titres, regroupés parfois en arc-en-ciel, souvent par maison d'édition, puisqu'on doit éprouver, me semble-t-il, un certain frisson esthétique lors de la contemplation de sa bibliothèque. J'ai arrêté de faire se voisiner les romans d'écrivains qui couchaient autrefois ensemble, mais qui aujourd'hui ne se fréquentent plus. Sur les rayons, des secrets se cachent entre les histoires. Dans la section où le menuisier me recommandait d'exhiber quelque chose de beau fabriqué avec mes mains, j'ai placé mon livre Galump, dans sa version préparée par la maître artisane en reliure d'art, Lorraine Choquette. Tous les lauréats d'un GG reçoivent leur livre habillé d'une robe magnifiée et magnifique. Il a pour voisin mes livres étranges, Les fous du roi, ceux qui déroutent, Lewis Carroll's Guide for Insomniacs, le bestiaire universel du professeur Riviloud, Bain de boue d'Ars O, The Bloody Chamber d'Angela Carter, Pourquoi regarder les animaux de John Berger. Juste avant d'entamer cette chronique, j'ai vidé ma dernière boîte, celle qui contenait les polars de Patricia Highsmith. C'est très symbolique, pour la lectrice que je suis, d'avoir commencé avec Hébert et clos par Highsmith. Le plus important, c'est qu'il reste de l'espace pour d'autres livres et pour jubiler à l'idée de les lire puis de les y ranger. Cette bibliothèque sera mouvante, vivante, pas figée dans le temps ou l'espace comme le serait un tombeau. Elle sera, en elle-même, une histoire sans fin. C'était « Une histoire sans fin », un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir.